RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Alors ensemble nous recevons Kaïna Bahloul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes islamologue et vous êtes la première imam au féminin de France. Donc bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc dans l'islam tel que qu'on le connaît hein, en France, les imams sont attachés à une mosquée, on a coutume de dire l'islam de Bordeaux, l'islam de Drancy, l'imam de Lyon. Donc pour l'instant, ce n'est pas votre cas. Qu'est-ce que ça signifie quand vous réclamez de la qualité d'imam ?
Eh bien, ça signifie qu'il y a des gens qui adhèrent à mon discours, qui adhère à ma vision, ma lecture des textes, et je ne suis pas la seule d'ailleurs à avoir cette lecture des textes, qui donne une plus grande part à la parole féminine, à la lecture féminine, et surtout, ça veut dire aussi que j'ai une congrégation religieuse avec moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me reconnaissent la qualité d'imam.
Et vous prêchez, ça vous arrive ?
Oui, bien sûr, je prêche les vendredis, mais je ne suis pas la seule imam dans notre mosquée. Il y a aussi un homme. Nous avons vraiment tenu à créer ce projet de mosquée sur cette idée de complémentarité et d'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. D'ailleurs, dans l'espace de prière, les hommes et les femmes sont placés au même niveau. Dans la même salle.
Donc on peut dire que c'est un islam réformiste que vous mettez en œuvre.
Oui, alors on peut dire que c'est un islam réformiste. Ceci dit, j'aimerais m'arrêter sur le mot réformisme parce que certains pensent que être réformiste veut dire qu'on essaye de changer l'islam. Oui. Ou non, en fait, il s'agit surtout de revenir à la lecture des textes fondateurs. En mettant de côté toutes les strates d'herméneutique qui ont été construites pendant des siècles et des siècles. Et parfois, ça crée une opacité qui fait qu'on ne comprend plus ce que les textes fondateurs voulaient vraiment dire.
Alors, vous vous réclamez du soufisme, un islam qu'on présente volontiers comme un islam modéré, un islam éclairé. Est-ce que vous pouvez, en termes un peu simples, parce que c'est évidemment c'est très complexe, mais nous expliquer comment se situe ou où se situe le soufisme par rapport aux grandes branches de l'islam ?
Alors, on pourrait dire que le soufisme, c'est vraiment la tradition spirituelle de l'islam. Si vous voulez, dans l'islam, il y a plusieurs disciplines religieuses qui se sont créées. Vous avez la jurisprudence, ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles de droit musulman. Vous avez la théologie spéculative aussi qui s'est créée, qui s'est posée des questions sur la nature de Dieu, notre rapport à Dieu. Et puis après, vous avez aussi la philosophie. Dans la tradition musulmane, il s'est développé une philosophie, la falsafa musulmane. Et puis après, vous avez une autre strate qui est la mystique ou la spiritualité. Et là, c'est vraiment le soufisme qui a développé la mystique musulmane.
Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que le soufisme reconnaît les cinq piliers de l'islam ?
Oui, vous savez, le soufisme en général, c'était diffusé dans tout le monde sunnite. Alors, il y a aussi des chiites qui se réclament du soufisme, mais oui, bien sûr, le soufisme reconnaît les cinq piliers. Les soufis,
le Coran et le livre saint,
ont toujours été des pratiquants,
des soufistes, le Coran et le livre.
Bien sûr, bien sûr. Et les plus grands savants de l'islam, les plus grands traditionnistes, par exemple, ou les plus grands juristes, étaient soufis aussi. Parce que ce sont deux disciplines qui vont pas l'une sans l'autre. Aujourd'hui, on est arrivé vraiment à dissocier l'islam de cette tradition spirituelle pour en faire seulement une compréhension, une lecture normative des interdits et des choses autorisées. Alors que, à l'origine, il y avait le soufisme, justement, qui constituait aussi la tradition spirituelle qui représentait la voie une voie de cheminement spirituel qui permettait à l'individu de faire un travail sur lui.
Alors, Venons-en donc à la triste actualité, lorsque vous avez, comme nous tous, appris qu'un professeur avait été décapité, car il avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Quelle a été votre réaction et, dans le fond, votre première pensée, votre premier sentiment ?
Eh bien, écoutez, comme beaucoup de Français, j'ai été saisie d'effroi. Et vous savez, la première réaction pour moi, le premier ressenti a été c'est que ce crime-là, ce crime barbare et horrible, m'a renvoyé des années en arrière. Parce que en réalité, dans les années 90, j'ai connu ça en Algérie. C'était des attentats comme celui-ci, avec le même mode opératoire, c'est-à-dire des gens qu'on égorge, des intellectuels, des porteurs de lumière, d'intelligence, étaient égorgés, décapités, et parfois c'était des villages entiers qui passaient. Donc moi, ça m'a renvoyé des années en arrière vers cette triste réalité de l'idéologie islamiste.
Il y a une phrase qui revient régulièrement depuis des années, après chaque attentat, il y en a deux, il y a attention à ne pas faire d'amalgame, et ce qui est un peu la même chose, l'autre formule, c'est ça n'a rien à voir avec l'islam. Cette formule est employée d'ailleurs y compris par des musulmans eux-mêmes. Est-ce que pour vous, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'islam ? Est-ce que cet énoncé-là a du sens ?
Alors, moi, je peux comprendre les musulmans qui vivent leur religion de manière paisible, et qui sont complètement intégrés dans la société française et qui sont pour des valeurs de paix et de liberté, qu'ils disent ça n'a rien à voir avec l'islam, parce que eux-mêmes ne se voient pas, n'adhèrent pas à cet islam-là. Ceci dit, quand on connaît bien l'évolution de la pensée musulmane, quand on sait quelles sont les origines du wahhabisme, du salafisme aujourd'hui, on sait qu'il y a eu, dans le développement de la pensée musulmane, certains courants qui, malheureusement, se sont plutôt développés dans le rejet de l'altérité, dans le rejet de la diversité religieuse, dans le rejet de la liberté de la femme, par exemple. Donc, malheureusement, ça fait quand même partie de l'islam. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps est vraiment venu pour les intellectuels musulmans, les penseurs, les théologiens, les islamologues, de faire ce travail d'éclairage et de, comme je le disais au départ, proposer une nouvelle lecture des textes. Et aujourd'hui, nous avons développé au niveau des sciences humaines et sociales, par exemple, moi je prépare un doctorat à l'école pratique des hautes études, nous adoptons la lecture historico-critique. En fait, c'est ce qui permet de mettre en perspective certaines normes ou certains préceptes de la religion par rapport à son développement dans l'histoire de l'islam. Oui.
Mais là, vous parlez de l'islam en tant que femme éclairée, on va dire, intellectuelle, qui a fait de grandes études. Mais malheureusement, l'islamisme arrive dans des esprits parfois qui sont pas toujours très éduqués. Comment lutter en quelque sorte pour amener cette espèce de, alors j'aime pas trop le terme, mais un peu galvaudé, d'un islam des lumières, comment approcher ceux qui n'ont pas accès à, en quelque sorte, cette forme d'éducation, d'intelligence, de formation de l'esprit ?
Bien, vous savez, moi je suis convaincue que l'islamisme, le fondamentalisme religieux, prospère dans un terreau où l'ignorance sévit. Oui. Ça, on l'a vu partout. J'ai vu ça en Algérie, on le voit aujourd'hui aussi. Et malheureusement, c'est la méconnaissance même de la religion.
Mais ça tient aussi au fait que dans un certain nombre de pays musulmans, on a fait taire ceux qui voulaient discuter de l'islam, ceux qui proposaient éventuellement une réinterprétation de certains passages du Coran. On les a fait taire.
Oui. Oui, mais vous savez, en fait, ce débat-là, le débat entre penseurs sur l'interprétation des textes, a existé depuis toujours dans la tradition musulmane. Justement, un des débats principaux qui ont existé, c'est la lecture spirituelle faite par les soufis, par exemple, et la lecture très formelle et normative faite par les juristes. C'est un débat qui a toujours existé. Sauf que là, nous sommes devant un phénomène, une idéologie qui refuse le débat, justement, et qui dit détenir la vérité, la seule vérité, la seule lecture possible et vraie de l'islam. Ça, c'est très problématique. Devant des gens comme ça, effectivement, il n'y a aucune possibilité d'éduquer ou de relire les textes.
Alors, tout à l'heure, vous parliez du wahhabisme. Est-ce que, dans le fond, l'islamisme prospère parce que les financements viennent aussi beaucoup de l'Arabie Saoudite?
Bien entendu, vous me posiez tout à l'heure la question de... Vous me disiez que je suis imam, mais je n'ai pas forcément de lieu fixe. Effectivement, des gens comme nous, nous n'avons aucun soutien. Nous n'avons pas de soutien de l'Arabie Saoudite, ni des pays d'origine, comme la majorité des mosquées le sont aujourd'hui. Elles ont toutes des financements de la part des pays d'origine. Eh bien, oui, l'islamisme et l'idéologie du wahhabisme et du salafisme a pu prospérer parce qu'elle a pu bénéficier des pétrodollars de l'Arabie Saoudite. Ça, on le dit jamais assez. Et les réformistes, les penseurs réformistes, les vrais réformistes qui sont plutôt pour une lecture intelligente, pour un islam des Lumières, n'ont jamais eu ce soutien. Alors que ce sont des courants de pensée qui ont toujours été concomitants.
Alors, il y a dans le Coran des versets qui sont depuis bien longtemps controversés, des versets qui appellent à la violence. Il y en a quelques-uns qui appellent à tuer. Je crois qu'il y en a peu, en fait. D'après un islamologue allemand qui s'est penché sur la question, il y en a 5 qui appellent à tuer, sur 6300 versets, me semble-t-il. Mais ils existent. Est-ce qu'il serait imaginable de frapper d'obsolescence un certain nombre de versets, ces versets controversés? Je crois que ça s'est déjà fait dans l'histoire de l'islam.
Mais bien sûr, et puis quand on fait une lecture, comme je l'indiquais tout à l'heure, historico-critique du texte coranique, on va se rendre compte que ces versets-là ont été révélés, ou en tout cas, ils concernent des circonstances historiques bien précises. Donc, ils n'ont pas lieu d'être érigés en règles universelles. Tous les versets coraniques ne se valent pas. Il y a effectivement des versets coraniques qui portent des sagesses universelles. Ceux-là, on peut dire qu'ils sont valables pour toute époque et toute l'éternité. Mais vous avez des versets qui sont purement historiques et qui n'ont plus lieu d'être actifs encore aujourd'hui.
Alors, vous, femme, imam, islamologue, est-ce que vous dites « oui, on a le droit de caricaturer ou critiquer ou se moquer du prophète Mahomet » ou vous dites « non, c'est une atteinte à la liberté de conscience » ?
Ah non, pas du tout. Moi, la caricature, je pense que c'est normal qu'elle fasse partie de l'exercice de médiatique, de la liberté de conscience. Et d'ailleurs, dans la tradition musulmane, dans la pensée musulmane, on trouve cette tradition de caricaturer. Alors, elle n'est pas sous le format Charlie, comme on le connaît aujourd'hui, mais il a existé ce qu'on appelle, par exemple, un grand ouvrage qui s'appelle Kelila wa Dimna, en fait, qui est l'ancêtre des fables de La Fontaine, par exemple. La Fontaine s'est inspirée de ça. Et en fait, cet ouvrage-là met les hommes politiques sous des traits d'animaux pour faire passer des messages, justement, envers les politiques et dire ce qui ne va pas. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui a existé dans la tradition musulmane. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important de rappeler, c'est le rôle. Quel est le rôle de la caricature? Ça, il faut absolument l'expliquer à nos enfants aujourd'hui, pour qu'ils puissent avoir cette distance, se dire que la caricature a un rôle, mais elle n'a pas pour objectif de m'humilier ou d'humilier le prophète que j'aime.
Comment est accueillie votre démarche, en particulier par les hommes musulmans en France? Est-ce que c'est mal vu ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des menaces à votre encontre, d'une part? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que les femmes ont un rôle particulier à jouer dans ce qui pourrait être, je ne sais pas d'ailleurs si pour vous l'expression a du sens, mais ce qui pourrait être un islam de France?
Alors, en ce qui concerne les hommes, je crois qu'il n'y a pas un seul type d'homme musulman. On a malheureusement tendance à avoir des archétypes, mais il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent notre démarche. Dans notre association, il y a beaucoup d'hommes. Je crois que les hommes, d'ailleurs, sont majoritaires par rapport aux femmes. Et comme je le disais, dans notre mosquée, il y a un homme imam, une femme imam, et il y a vraiment beaucoup d'hommes qui soutiennent cette démarche.
Et les femmes soutiennent aussi ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de femmes aussi soutiennent, et beaucoup de femmes, évidemment, n'attendent que ça, et n'attendent que des personnes qui peuvent les représenter et avoir voix au chapitre, bien entendu.
Mais votre démarche, elle irrite aussi.
Mais elle irrite, oui, bien sûr. Alors, oui, depuis la création de la mosquée, ouais. On a reçu des insultes, on a reçu quelques menaces, malheureusement. Mais je crois qu'il s'agit encore une fois d'une incompréhension. Parce que certaines compréhensions de l'islam restent figées à une pensée qui a été produite au Moyen-Âge, et on a fini par sacraliser cette pensée du Moyen-Âge en croyant qu'on ne peut plus faire évoluer la religion.
Alors Emmanuel Macron a pour coutume, comme d'autres présidents aussi, de recevoir des intellectuels, peut-être qu'il vous a reçu. Si vous l'aviez en face de vous, et qu'il vous demandait dans le fond ce qu'il y aurait à faire. Alors je ne parle pas de problème législatif et qui appartient aux politiques stricto sensu, mais en tant que chercheuse, islamologue, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Moi je lui dirais deux choses. C'est d'abord de soutenir et d'encourager les initiatives comme les nôtres, elles existent, d'un islam libéral, d'un islam progressiste, réformiste, et il y a plusieurs voix d'intellectuels éclairés qui s'expriment aujourd'hui en France, mais malheureusement on a l'impression de ne pas être entendu. Parfois on a l'impression de parler dans le vide et que personne ne nous entend. Et vous savez, enfin, toutes ces questions-là de la ségrégation exercée envers les femmes, et toute la question de la violence, des lectures rétrogrades et moyenâgeuses ont été soulevées par des intellectuels musulmans depuis plusieurs années, mais on n'est pas écouté. Ouais. Ça c'est vraiment le ressenti partagé par plusieurs personnes.
L'organisation de l'islam. Attendez, vous aviez une deuxième suggestion à faire à Emmanuel Macron.
Oui, un deuxième point, ça serait d'encourager la recherche. Ça, il l'avait dit dans son discours, ouais. Et j'ai trouvé ça très très bien. J'étais très contente qu'il l'indique. Encourager la recherche. En sciences humaines et sociales en ce qui concerne l'islam.
Il nous reste très peu de temps. L'islam a besoin d'être réorganisé dans ses structures en France.
Oui, je crois qu'il faut réorganiser l'islam dans ses structures en France, et puis surtout aussi revoir la représentativité de l'islam, de ses structures, de ses institutions.
Oui, qui fonctionnent au mètre carré de mosquée actuellement.
Exactement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de musulmans qui ne vont pas à la mosquée, qui vivent leur islam chez eux, et puis de manière très intime, et très personnelle, et qui ne sont pas du tout représentés ni par ces mosquées, ni par ces institutions qui ne représentent que des mosquées finalement.
Merci, on est arrivé au terme de cette émission, merci.
Merci beaucoup Kaïna Bahloul d'être passée sur l'antenne de RFI France 24. Merci à Charlotte Urien-Maca et à Camille Desrand pour avoir fait part.